Parfait.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Torvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Du 17 au 21 mai 2023, Lyon accueille ce qui se fait de mieux en matière de musique électronique. 5 jours et 5 soirées de folie, près de 200 artistes venus de 26 et quelques nationalités. Au programme, plus de 100 concerts aux quatre coins de la ville et 200 000 personnes attendues. C'est simple, tous les ans, ils nous retournent la ville et ça fait 20 ans que ça dure maintenant. J'ai le plaisir ce matin d'accueillir Julien Roche, co-directeur de la communication d'Artifarty pour Nuit Sonore, et Clémence Laurent, attachée de communication vidéo pour l'Events Nuit Sonore. Salut Clémence, salut Julien, merci d'être avec moi, ça me fait très plaisir de vous accueillir.
Ben merci, on est super contents.
Oui, merci, bonjour.
Donc, long titre, hein, juste avant off, on a pris un moment pour... parce que vous travaillez tous les deux pour Artifarty. Voilà, et Artifarty, c'est l'organisateur de Nuit Sonore, hein, c'est bien ça.
Ouais, c'est l'asso qui a monté Nuit Sonore il y a 20 ans.
D'accord. Julien, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Nuit Sonore, qui ne sont pas lyonnais ou qui n'ont jamais eu l'occasion de venir nous voir début du printemps pour venir danser, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que cet event?
Alors Nuit Sonore, c'est un festival qui a 20 ans, qui s'est monté par Artifarty pour justement montrer les musiques électroniques et indépendantes. Donc du coup, on a un spectre musical très large. On n'est pas que sur de la musique électronique, hein. On est aussi sur du rap aujourd'hui. Donc on a vraiment évolué. Et donc ça fait 20 ans qu'on utilise la ville de Lyon justement pour faire des événements, pour montrer des nouveaux artistes et justement pour faire bouger la ville.
Voilà, donc ça se passe dans 100 lieux, hein, c'est ce que j'ai vu cette année. Hein, combien d'espaces différents?
Ah non, il n'y a pas 100 lieux.
Une quinzaine, je pense.
Alors, je dis une bêtise, 100 concerts, pardon, aucun de quoi de la vie. 100 concerts dans une quinzaine de lieux. Il y a les usines Fagor qui sont devenues un peu le spot mythique, hein, donc usine désaffectée à Lyon, pour ceux qui ne connaissent pas. Puis il y aura évidemment les hotspots des nuits lyonnaises habituelles. Est-ce qu'il y a quel autre lieu intéressant cette année à visiter absolument pour les nuits sonores?
Bah, il y a la Sucrière qui est un peu le lieu où tout le monde va se retrouver la journée pour le programme des Days.
Okay.
Donc là, il y aura 4 scènes différentes. Il y aura une scène sur l'esplanade de la Sucrière, une deuxième au club du sucre, qu'on gère aussi avec Artifarty. On a aussi la scène de la Sucrière en intérieur, la 1930. Et il y aura aussi le Hazard Club pour la première fois qui va être utilisé lors du festival. Donc ça va vraiment être toute une journée où tous les festivaliers pourront bouger un peu dans ces 4 différents lieux.
Public attendu, 200 000 personnes. Ça, c'est ce que j'ai vu dans le communiqué de presse. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on attend vraiment 200 000 personnes? Est-ce que chaque année, il y a 200 000 personnes qui viennent pour Nuit Sonore?
Alors, il y a un tout petit peu moins, mais oui, c'est à peu près ça. En fait, on cumule les chiffres, nous, officiels qu'on a sur les in, et après tous les extras, donc tous les off, en quelque sorte, qui existent aussi dans la ville. Donc, du coup, ça fait à peu près ça, ouais.
Et donc, cette année, ce sont les 20 ans de Nuit Sonore. 20 ans sans dormir, c'est votre petite baseline pour l'occasion. Est-ce que vous pouvez me raconter à moi la genèse de cet event? Parce qu'il y a 20 ans, je crois pas que j'étais encore sur Lyon. J'étais déjà sur Lyon, je venais d'arriver, je découvrais cet event. Comment il est né, en fait, cet événement? Ah, il te regarde. Et qui pour raconter ça?
Eh ben, ça a commencé au départ. Je crois que c'était un événement très rock en plus dans Lyon, qui était assez petit. C'était beaucoup de parcours de différentes scènes à travers Lyon et à travers la ville. C'est d'ailleurs pour ça que tout au long du festival, il y a eu un programme qui s'appelait le circuit. Et là, il y a les extras. Donc, c'est important aussi que le festival soit un peu implanté aussi tout à travers de la ville et dans différents lieux lyonnais et pas que dans de gros événements payants dans l'enceinte de gros lieux comme Fagor ou la Sucrière. Et après, petit à petit, ça a grandi de plus en plus, en s'accentuant plus ou moins sur certains types de musique, mais tout en essayant quand même de représenter une multitude de catégories de musique différentes, de genres différents, pour qu'un peu tout le monde s'y retrouve et que ce soit pas juste uniquement un festival de rock, un festival d'électro, un festival de rap.
Ok, Julien?
Ouais, et puis l'idée, c'était vraiment d'utiliser des lieux en friche, qui est vraiment aussi propre de Nuit Sonore, c'est-à-dire c'est utiliser des lieux qui sont en transition dans la ville. C'est ce qu'on a toujours fait depuis le début. Donc c'était la Sucrière, le premier lieu. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu très connu à Lyon, mais sauf qu'avant, c'était vraiment une zone pas c'est du vrai. Tout connue à Confluence. Et on a fait la même chose avec Fagor, et puis on fera la même chose à partir de l'an prochain sur un nouveau spot, puisque l'idée, c'est quand même de faire bouger les lignes et nous, de changer, on va dire, tous les 4-5 ans de lieu.
Ouais. Donc énorme impact, hein. Nuit Sonore, depuis 20 ans maintenant, vous avez fait main basse, on va dire, sur la vie nocturne lyonnaise, en tout cas sur cette période de l'année. Tu me disais tout à l'heure, Julien, tu m'as repris juste avant qu'on commence en me disant, attention, ne dis pas les Nuits Sonores, mais bien Nuit Sonore, parce que c'est une marque, et c'est une marque qui aujourd'hui est déployée ailleurs, notamment à Bruxelles, hein, j'ai pu comprendre ça, donc il y a Nuit Sonore Bruxelles. Est-ce que c'est un des projets que vous portez à Tifarty, c'est de dire cette marque, ce format d'événement, on va le déployer aussi ailleurs?
Alors plus ou moins, on l'a fait il y a quelques années, beaucoup plus qu'aujourd'hui. On l'a fait en Colombie, on est allé en Corée, on a fait beaucoup de projets avec l'Institut français, c'est comme ça du coup qu'on a déployé la marque Nuit Sonore à l'étranger. Et puis à Bruxelles, c'est une histoire un peu particulière, parce que c'est une ville de cœur qu'on connaît, on est très européen aussi, donc du coup... le projet Bruxelles est un peu plus gros, c'est un peu le deuxième Nuit Sonore pour nous, enfin c'est un peu important, donc ça on l'a gardé, mais par contre l'idée de le refaire à l'étranger, s'il y a des opportunités on le fera, mais avec aujourd'hui avec la transition écologique etc, on n'a pas trop envie de prendre des avions, des charters etc, d'amener des artistes, donc on réfléchit d'une autre manière. Donc on le fera différemment.
Compris. Alors les amis, moi j'aimerais, on va parler évidemment un peu musique aujourd'hui, mais j'aimerais surtout qu'on puisse causer avec vous social media évidemment. Je me pose beaucoup de questions sur les tactiques et les dispositifs social media d'un événement aussi massif que Nuit Sonore. Comment tout ça fonctionne? Et évidemment, j'ai fait un petit peu mon travail de classe, je suis allé éplucher tout ça, et c'est notamment du côté d'Instagram que vous êtes aujourd'hui, semble-t-il, en tout cas les plus actifs, Nuit Sonore sur Instagram, 49 000 abonnés, bientôt 50 000 abonnés, on va dire. Quelle est l'importance pour un festival, pour une organisation comme Nuit Sonore, des réseaux sociaux? À quoi ça sert, les réseaux sociaux, pour Nuit Sonore?
Bah nous, c'est hyper primordial parce que ça nous permet de parler à nos communautés, à nos festivaliers. C'est vraiment la première porte d'entrée et la plus rapide, du moins, pour de communiquer avec eux. En plus, ce qui est marrant, c'est que sur Nuit Sonore, on a vraiment vécu tous les types de communication. C'est-à-dire que on a commencé en 2003, enfin, moi, j'étais pas là, mais c'était vraiment du flyer, donc du print. Hein. Et puis, progressivement, bah, on a commencé à aller sur... alors, j'imagine qu'il y a eu MySpace et compagnie. Mais bon, moi, j'étais pas là, mais... À mon avis, ils l'ont fait.
Sans doute, oui.
Et après, donc, il y a eu Facebook, la grosse période Facebook des années 2010. Et puis maintenant, effectivement, on se décale. Enfin, progressivement, on a utilisé les réseaux sociaux pour toucher nos communautés. Et on a changé, évidemment, de fusil d'épaule suivant aussi les époques. Et aujourd'hui, effectivement, c'est Instagram qu'on utilise le plus. Mais c'est pas dit que ça ne rechange pas dans quelques années.
Et à qui elle s'adresse, cette communication social media des Nuits Sonores, de Nuits Sonores? Est-ce que ce sont les festivaliers? Est-ce que ce sont les artistes eux-mêmes? Est-ce que c'est les sponsors? J'aimerais bien comprendre en fait ce qui joue réellement sur votre plateforme.
En fait, les trois se jouent. Les artistes, c'est hyper important parce que eux, ils ont vraiment, encore plus que nous d'ailleurs, un relais avec leur communauté. Ils ont un lien affectif avec eux. Donc eux, ils transmettent la parole de Nuit Sonore. Donc c'est pour ça qu'ils partagent beaucoup et qu'on utilise aussi beaucoup les artistes et on communique beaucoup avec eux pour communiquer sur Nuit Sonore. Après, les sponsors, bah, c'est surtout de l'image. Donc c'est-à-dire que là, il faut que... On travaille beaucoup avec des partenaires. On a besoin aussi, nous, de partenaires pour faire le festival. Donc, évidemment, l'image de Nuit Sonore est importante. Donc, Instagram joue énormément. C'est pour ça qu'on fait hyper attention aux photos, aux vidéos qu'on choisit, etc., pour montrer le festival. Et puis, le dernier, c'était... Pardon.
Oui, eh bien, donc, je disais sponsor, festivalier, artiste.
Ouais. Du coup, festivalier, évidemment, effectivement. Donc, festivalier, c'est surtout très, très présent pendant le festival. Ouais. C'est-à-dire qu'ils utilisent beaucoup, beaucoup la plateforme sur le festival. On a beaucoup, beaucoup de messages aussi. Parce que du coup, les gens se perdent, etc. Les gens ont plein de questions. Donc, on a vraiment aussi une stratégie pendant le festival. Enfin, on a une stratégie en amont, pendant et après, qui est vraiment différente.
Ouais, alors ça, vraiment, ce avant, pendant, après, c'est, je dirais, classique de l'événementiel, hein, à tout point de vue. Et donc, évidemment, en communication, ça joue sur ces trois moments clés. J'aimerais bien que, justement, on parle de ça et qu'on parle du avant ou peut-être du pendant deux événements. Ça, si, ça m'intrigue parce que Nuit Sonore, c'est un événement qui dure cinq jours tous les ans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui, selon vous, est la bonne manière de faire si mon événement, il est une fois par an? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je continue à faire vivre ma marque, Nuit Sonore? Est-ce que j'achère mes comptes et je crée un espèce d'appel d'air, un besoin d'attente? Comment vous arbitrez-vous ça?
Alors, c'est une question qu'on s'est posée il y a déjà plusieurs années. On a fait les deux. Pour être franc. Donc, on a, en fait, avant, on avait que le projet Nuit Sonore sur Artifarty. Donc, du coup, c'était un peu, on communiquait 6 mois dans l'année et après, on arrêtait. En gros, c'était un peu ça. Et puis là, maintenant, depuis quelques années, on a vraiment changé de fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'on communique à l'année sur Nuit Sonore. Donc c'est vraiment une marque qu'on défend toute l'année, alors avec plus ou moins d'intensité évidemment, mais on commence à peu près en octobre, parler du festival en mai, donc on commence assez tôt et on déploie de octobre à peu près juin, parce qu'après il y a après le festival, et après même juin on commence déjà, enfin là cette année on a déjà préparé déjà l'après. Donc on va déjà préparer juin, on va parler de l'édition future.
Ouais, donc vous avez déjà un programme édito, vous savez déjà de quoi vous parlez sur l'entre-deux de l'année prochaine, c'est ça?
Tout à fait. En fait, comme le festival aujourd'hui est relativement grand et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements, beaucoup de choses, donc il y a à la fois les artistes, il y a l'expérience, il y a les lieux, il y a la ville, enfin il y a tout ça. Du coup, on essaie d'angler différemment, donc on a quand même quasi un an pour parler de tous ces sujets et d'amener progressivement les informations. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, on dispatche les informations tous les mois, une information un peu différente. Il y a des moments forts, comme en janvier avec la conférence de presse où on annonce une globalité, mais maintenant, on essaie de dispatcher au maximum.
Et par contre, c'est nécessaire d'avoir un moment de jachère, un moment où il n'y a plus rien, c'est-à-dire voilà, on passe, on redescend tous, on se fait un tout petit peu oublier pour revenir à nouveau et de recréer un temps fort où est-ce que la marque événementielle, elle peut exister réellement toute l'année.
Bah, en fait, il y en a un. Il y a un moment de jachère, en fait, par défaut, qui est l'été, en fait, hein, où les gens sont en vacances.
Et puis, il y a d'autres festivals à ce moment-là. Hein.
Tout à fait.
La France, elle est déjà sur des festivals, donc peut-être que vous laissez la place aux autres et puis vous revenez après, c'est ça?
Bah, je pense que déjà, nous, on se repose. Parce que c'est,
ça marche aussi.
Nous, on a la chance d'être un des premiers festivals d'été. Donc, ça c'est. On a toujours cette chance-là. Donc, du coup, on lance un peu la saison en France et aussi à l'étranger. Du coup, on se sert beaucoup de ça. Et c'est bien d'être les premiers à parler. Et ça, on fait hyper attention à ça aussi sur les réseaux, notamment quand on annonce la prog, on regarde beaucoup aussi nos concurrents, comment ils se positionnent. Et après, effectivement, on est plus en jachère à partir de mi-juin, je pense que ça va être calme.
Ok, donc ça, c'est le avant. Avant, hein, on l'a vu, vous préparez longtemps à l'avance, que vous êtes déjà en train de réfléchir à comment vous allez organiser vos annonces de l'année prochaine. Donc là, il y a vraiment un temps d'anticipation et de préparation. Et puis après, place à l'event en lui-même, où là, c'est forcément, c'est de l'événementiel. Donc, il y a des choses différentes qui se jouent. C'est quoi votre dispositif social media pendant l'événement? Là, je me tourne vers toi, Clémence, parce que tu fais de la vidéo pour Nuit Sonore pendant l'événement, etc. Comment ça se marche, justement, la production vidéo? C'est qui fait? Comment c'est organisé pendant l'événement?
Eh ben, pendant l'événement, surtout on a pour ce qui est question de vidéo, on a un vidéaste qui est là sur le festival et qui déambule un peu dans tous nos lieux, dans tous les programmes et tout. Et chaque jour, il doit nous livrer, cette année ce sera deux petits reels, deux petites capsules vidéo pour représenter un peu l'ambiance du festival et faire un petit récap de la journée. C'est ce qu'on a fait les autres années, et cette année on aimerait bien faire plutôt un focus ambiance ou genre pour que ce soit vraiment axé sur... un moment spécifique, à une palette d'artistes, à une ambiance du festival, vu qu'on a énormément de lieux, qu'on a énormément de programmes, vraiment pouvoir se focaliser sur un moment et montrer aux gens l'ambiance de cette chose-là et faire un truc moins générique et pour pouvoir ensuite avoir plein de vidéos différentes et pas une vidéo récapitulative du festival en lui-même.
Quoi. Ouais, je comprends. Et là-dessus, c'est quoi le dispositif global? Là, on parle de vidéo, mais le dispositif global de l'équipe social media Nuit Sonore, comment ça se passe? Il y a toute une équipe, il y a une quinzaine de lieux, il y a une centaine de concerts. Vous pouvez peut-être pas tout raconter, mais vous avez envie de montrer des choses. Comment ça se passe, ça? C'est combien de personnes déjà, cette équipe?
Ben, à Artifarty, dans l'équipe communication, on est environ 10 personnes.
Ouais.
Mais après, chaque personne ne travaille pas forcément sur Nuit Sonore. Il y a plein d'autres projets qu'on traite aussi et d'autres sujets. Mais pendant le festival, l'équipe, elle se focalise un peu sur l'événement en lui-même. Et du coup, là, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on va se séparer en petits duos qui va un peu passer à travers la ville et à travers les programmes pour pouvoir essayer de couvrir au maximum la visibilité de chaque artiste et de pouvoir montrer au maximum sur les réseaux sociaux, en story ou avec des posts Instagram, comment le festival vit, quoi, en direct.
Donc, en gros, on va avoir 10 personnes de l'organisation qui vont être là, notamment pour couvrir l'event en social media, hein, c'est ça, hein, si je comprends bien.
Ouais, en gros, en fait, on a fait des binômes, alors après, on a quand même le temps aussi de se reposer, parce que du coup, le problème de Nuit Sonore, c'est que ça commence très tôt le matin. Enfin, en gros, nous, on va commencer vers 11h, on fait le débrief comme le matin. On va dire, qu'est-ce qui s'est passé la veille, qu'est-ce que tu as eu sur les réseaux, parce qu'on a aussi une grosse partie, nous, de réponses aux questions, un peu de FAQ, en gros,
bien sûr.
Où c'est, est-ce qu'il reste place de déplace pour tel concert, où sont les toilettes.
L'accès PMR, ça se passe
voilà,
comment.
Voilà, exactement. Et ça, c'est un gros job, du coup, en CM, mine de rien.
Donc
et
là, vous avez, là-dessus, c'est quoi? C'est la même équipe de 10 personnes qui se.
Non, on est un peu moins, c'est vraiment une équipe resserrée.
D'accord.
On va dire 3-4 personnes qui se retrouvent le matin pour faire le brief, en gros, enfin, déjà, faire le point de la veille. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que des fois, parce qu'il peut y avoir aussi des problèmes. Hein, donc, on a un peu une mini cellule de crise au cas où, s'il y a des soucis de santé ou quoi que ce soit de festivalier, hein, ce qui peut arriver. On fait aussi le point sur ce qui s'est passé la veille, sur les contenus qu'on a pu récupérer, etc. Et après, on dispatche après aussi la journée. Comment on va s'organiser, qu'est-ce qu'on va faire, etc.
Donc, tous les matins, 11h, c'est en mode war room avec toute la team com hein, de
ouais,
Nuit Sonore, c'est ça,
ça. Serrer, ouais.
Et puis après, ça dure jusqu'à la fin de la nuit, hein, c'est ça le truc.
C'est
hein.
ça, et après, on se dispatche, donc on va, comme dit Fourmi, on va sur ouais. les lieux. Et après, donc, on se passe le contenu entre nous, puisque du coup, il y a des équipes à droite et à gauche.
Ouais.
Et après, on poste. Maintenant, ce qu'on va faire, enfin, avant, il y avait une personne qui gérait vraiment le poste global, surtout les réseaux, maintenant on a accès au réseau, donc, du coup on va pouvoir le faire nous-mêmes.
Donc avant il y avait une personne qui centralisait tout,
exactement,
qui récupérait
ouais.
tout
ouais.
et qui disait bah, moi je suis le garant de la ligne édito,
c'est ça.
Là maintenant
ouais.
vous avez lâché la corde là-dessus et la ligne édito elle est au cœur on va dire de l'action quoi, c'est ça.
Voilà, c'est-à-dire qu'on briefe quand même les équipes avant hein, pour
bien
que
sûr.
Ce soit vraiment dans l'image qu'on veut, etc. Avec la typo, etc. qu'on veut, donc là-dessus on fait hyper attention. Par contre ils sont relativement autonomes.
D'accord. Et là, juste sur cette production de contenu, l'angle, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, je suis en natif, vraiment live social, quoi, shoot and go, shoot and run, comme on dit. Hein, donc j'ai mon mobile et je fais du contenu. Ou est-ce que vous avez, on le sait, hein, Nuit Sonore, c'est une marque, c'est aussi une DA extrêmement travaillée, léchée, etc. Comment est-ce qu'on intègre cette DA au cœur du live, au cœur du live reporting comme ça? Est-ce que vous avez à côté Canva? Il faut obligatoirement passer par des formats Canva, comment ça roule ça? Ou est-ce que là on joue le natif et c'est très bien?
Alors il y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'on va jouer le natif notamment sur des instants, parce qu'on va vraiment travailler cette année les instants, donc c'est des petites capsules de, et ça, pour voir le festival, pour vivre le festival un peu de l'intérieur. Et puis après sur tout ce qui est par contre dispositif avec les partenariats, avec certaines marques ou même certains artistes, là ça va être charté. Donc là, pour le coup, c'est préparé en amont. Nous, on n'utilise pas Canva. On est très suite Adobe, donc on reste.
Ça marche aussi, hein.
Ouais. On fait vraiment tout à la mano. Enfin, la mano. On fait tout avec les logiciels After Effects et compagnie, et on fait tout avec ça. Et après, on se les envoie en amont.
Ok. Mais alors, gars, oui, tu voulais rajouter quelque
et
chose?
Ouais, cette année aussi, enfin, les années d'avant aussi, des fois, on rajoute justement pour ajouter la petite identité visuelle sur les stories et sur les événements en live, on rajoute un petit PNG ou un petit élément visuel de la marque et de l'identité visuelle de l'année sur les stories pour ajouter un petit élément, mais c'est assez subtil.
Donc
et
là,
c'est
vous,
pas trop marqué. Quoi.
Vous avez conçu vos social guidelines, tout le monde est au courant et sait exactement comment il faut déployer. Hein, c'est ça l'idée.
Ouais, c'est
hein.
pas tout encore fini. Hein.
J'étais dessus.
Bah là, vous êtes dans le money time, le sprint final, c'est maintenant là, qu'il faut finaliser ça. Tu parlais tout à l'heure de partenaires, de sponsors. Hein, et ça m'intéresse aussi de savoir quelle place vous laissez aux partenaires dans vos prises de parole sur les réseaux sociaux. TGV Inouï, NG, Photomaton, ça, ils sont sponsors de l'event. Mm. Donc, ce que je comprends bien, ils donnent des sous hein,
ouais.
pour que cet événement se fasse. Est-ce que leur place sur les réseaux sociaux, elle fait partie aussi des discussions que vous avez avec eux? Ou est-ce que c'est exclusivement IRL, hein, physique sur l'event? Ou est-ce que vous pouvez aussi monnayer et faire rentrer dans le deal eh bien, vos audiences et un dispositif social media?
Ouais, ça fait partie du deal. Après, nous, vraiment, on verrouille énormément ça. C'est-à-dire que du coup, on voit avec eux l'histoire qu'on va raconter. Et on veut toujours la raconter avec notre prisme à nous. C'est-à-dire qu'en gros, quand ils viennent et nous disent on veut faire ça, on discute avec eux. On dit, nous, voilà comment on va amener les choses. On veut vraiment que ça reste une Nuit Sonore. Donc, on essaie toujours de les amener à réfléchir avec nous à comment amener la marque subtilement. Donc, c'est vraiment ce qu'on va faire cette année. Enfin, c'est ce qu'on fait toujours d'ailleurs avec les partenariats, pour que ça se fonde bien et que ça fasse pas comme une cerise sur le gâteau, un peu bizarre, quoi.
Ouais. Voilà. Mais par contre, c'est un deal, quoi.
Oui,
il doit y avoir à un moment donné placement du sponsor dans votre grille, dans vos stories, etc.
Ouais, ouais. Hein. C'est-à-dire que là, on sait exactement quand on va faire les stories de Photomaton, par exemple, etc. Tout est calé, ouais.
D'accord. Et vous l'avez co-écrit avec eux avant pour qu'il n'y ait pas de quiproquo en disant, voilà, la place qu'on va laisser au partenariat prendra cette forme-là.
Okay. Ouais, c'est co-écrit, validé, un contrat, etc. Puis après, évidemment, ils ont de la visibilité in situ, hein, donc sur les lieux.
Ouais. Et alors, autre point, les partenaires médias. Parce que alors, quand tu lis le dossier de presse de Nuit Sonore, bah, tu as un nombre de partenaires impressionnants. Donc, tu as les sponsors dont je viens de parler, et puis tu as les partenaires médias. Et là, Nuit Sonore, c'est un festival qui est aujourd'hui accompagné par des partenaires médias vraiment très solides, hein, très haute volée. Arte Concert, Libération, je ne les cite pas tous, hein, mais FIP, Society, Étape, Rins, Kimblind, etc., etc. Donc vraiment des gros acteurs. Et de fait, du coup, chaque édition de Nuit Sonore profite de retombées médias et social media via ses partenaires médias. Comment est-ce que vous travaillez avec vos partenaires médias pour coordonner la production de vos contenus et des leurs sur les réseaux sociaux? En gros, pour ne pas vous cannibaliser, quoi.
Bah là, c'est pareil, c'est vraiment dealer avec eux en amont. C'est quasi un an avant. Donc maintenant, on répète avec eux, donc on le fait souvent, donc maintenant, on a une fidélité avec eux. Mais bon, après, le dispositif, il change quand même chaque année. C'est vraiment beaucoup de production, en fait. C'est vraiment de la production sur mesure avec eux qu'on fait avec l'équipe presse, hein, pour le coup, qui gère toute cette partie-là. Et après, ça, pareil, on essaie vraiment de raconter une histoire à deux. C'est-à-dire qu'on leur dit, on va le faire ensemble et nous, on suit vraiment... l'histoire avec eux, quoi.
Ouais, parce que eux, ils produisent beaucoup de contenu, hein. Arte Concert, ils font de la Capta Live, ultra quali, ultra chouette de concerts pendant Nuit Sonore. Il y a des contenus qui sont des interviews d'artistes aussi, qui sont produites par ces médias partenaires. Est-ce que malgré la couverture qui est garantie, on va dire, par ces partenariats médias sur les réseaux sociaux, quelle est l'importance pour Nuit Sonore, pour la marque, de produire ses propres contenus? Est-ce que vous ne pourriez pas juste vous contenter de dire bah « Moi, j'ai mes partenaires médias qui font un super boulot, on va cross-poster toutes leurs vidéos, tout leur contenu, et puis ma prise de parole, c'est bon, elle est actée. »
Bah, disons que c'est de l'amplification. Donc déjà, ils amènent leur touche aussi, donc, et puis ils amènent leur audience. Donc, et puis c'est des choses que nous, on ne sait pas forcément faire, hein, sur Arte Concert, etc. Heureusement qu'on les a, parce que clairement, c'est aussi un boulot en soi. Donc déjà, eux, ils apportent leurs compétences à eux. Ils vont chercher aussi une audience que nous, on n'a pas forcément. Donc là, c'est intéressant. C'est aussi en termes d'image hyper intéressant, parce que d'avoir Libération, Arte, nous, c'est aussi des médias qui nous plaisent, c'est des médias qu'on lit, enfin, qu'on voit, etc. Donc du coup, il y a aussi une importance d'image. Et après, nous, on veut quand même, évidemment, faire nos propres contenus. Enfin, on essaye, en tout cas, d'en faire quand on peut, parce que c'est aussi, on a aussi envie de raconter à notre manière, à notre sauce, en fait, Nuit Sonore.
Ouais. C'est quoi la différence entre les contenus que les partenaires médias vont faire et les vôtres? Vous avez un angle différent quand c'est pour vous qui les produisez?
Eux, ça va être très très réfléchi. C'est-à-dire que du coup, comme il y a des grosses équipes techniques, il y a des gros moyens, ça sera super, super clean, etc. Nous, on va peut-être plus être dans l'instantané. Ouais. En gros, ça va être ça.
Et puis mettre aussi, j'ai le sentiment, parce que j'ai vu aussi les contenus reels que vous avez produits en interview, notamment dernièrement pour Nuit Sonore, qui mettent le focus peut-être sur des parties du festival que les gros médias vont pas soutenir autant, peut-être les extras, etc., hein, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça, c'est l'intérêt aussi, c'est de mettre en valeur certaines choses qui pourraient ne pas forcément intéresser les médias, dans le sens où c'est des petites cases du festival qui sont moins intéressantes et pertinentes à leur échelle, même si j'imagine qu'ils s'en intéressent, mais c'est pas pareil comme sujet à traiter quand on est Arte ou quand on est FIP, de parler des collectifs locaux par rapport à des artistes qui sont bien plus vieux, bien plus reconnus.
Installés, ouais. Moi, je me suis posé pas mal de questions sur votre production de contenu. Je me suis dit, ils ont tellement de matière à faire plus. Pour être honnête, parce que vous avez les talks qui sont passionnants, donc c'est des séries de cycles de conférences en plus des nuits où il y a déjà plein de choses à raconter. Vous avez évidemment des tonnes d'artistes qui ont aussi des parcours, des projets, des trucs sur lesquels ça serait intéressant de les entendre. Vous avez les lieux, les extras. Il y aurait tellement de matière à produire du contenu. Est-ce que vous aussi, de temps en temps, vous êtes tiraillé à l'idée de cette marque Nuit Sonore, de la transformer en marque média et aussi d'aller un cran plus loin sur la production de contenu, ou il faut pas?
On aimerait beaucoup. Après, c'est vraiment un problème de temps. C'est-à-dire que, en gros, nous, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est organisateur d'événements. Donc, l'objectif principal, c'est avant tout de faire un événement, de le vivre en live. Et ça, déjà, il faut qu'on arrive à le faire et que ça se passe bien, etc. Donc, ça, c'est déjà un gros challenge pour nous. Donc, nous, on est vraiment, c'est la première phase à faire. Si après, on arrive à choper du contenu, à aller plus loin et après faire des archives, etc., enfin, même d'en faire une marque média. Avec plaisir, et d'ailleurs c'est vraiment ce qu'on aimerait faire, mais pour l'instant c'est un vrai problème de temps. Clairement, nous on n'a ni les équipes, enfin, on n'a ni le temps, ni les équipes forcément derrière en RH pour gérer, ni forcément le budget, parce que c'est aussi un budget, hein, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir les outils pour capter, etc. Le temps, les artistes ne sont pas forcément toujours toujours disponible hein, sur le festival. Donc là, quand on travaille avec FIP et tout, c'est des mois et des mois quand même en amont pour préparer les plannings, les feuilles de route, etc. Donc c'est quand même très compliqué.
Ouais, alors là, on parle des artistes. Allez, basculons du côté des artistes parce qu'il y aura évidemment de la musique. Il y aura aussi des trucs sérieux, c'est ce que je disais. Sur les trucs sérieux, juste un petit point là-dessus. Nuit Sonore va mettre en place des tables rondes sur des grands sujets qui concernent la filière musicale. J'ai trouvé ça vachement intéressant. En tout cas, c'est l'angle de cette année. Il y a notamment un talk qui parle de prescription et d'algorithme. Évidemment, moi, ça m'a parlé. Là, j'aimerais beaucoup aller pouvoir assister à ce talk. L'angle, c'est qui décide réellement de ce que j'écoute et de ce que je découvre. Alors du coup, je vous retourne un peu la question à vous. Comment ça se passe de votre côté, du côté de Nuit Sonore hein? Comment s'organise la curation, la sélection des quelques 200 artistes hein, qui seront là et qui interviennent pendant une Nuit Sonore?
On parle des artistes musicaux ou du coup des talks là?
Là, je parle des artistes musicaux.
Ouais.
Comment se fait la programmation? Est-ce que c'est un algorithme sonore que vous pluguez et qui fait la sélection? Qui sont les humains qui gèrent ce programme qui est fleuve hein? C'est 200 artistes, 200 artistes, c'est énorme. Hein.
Ouais, c'est ça. Et ben, en fait, on a une équipe justement de direction artistique chez Artifarty qui doit programmer justement chaque artiste et chaque personne qui performe à Nuit Sonore et dans nos autres projets. Et cette équipe-là, en fonction des tendances, en fonction des genres aussi, vu que, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment une envie de représenter une multitude de genres et de palettes musicales différentes lors du festival, vont essayer de chercher un peu les artistes émergents. Il y a aussi une histoire d'artistes locaux. Il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. C'est pas seulement des algorithmes musicaux. Il y a aussi cette idée-là aussi d'avoir des artistes justement qui sont installés et qui sont reconnus pour vendre du ticket. Mais il y a aussi l'idée de créer quand même une ligne éditoriale assez, assez bonne et assez construite derrière tout ça, en fonction aussi des valeurs du festival en lui-même.
Ouais. Mon associé Rémi, qui lui est un fidèle hein, de Nuit Sonore, me disait c'est un festival qui est atypique sur un point, c'est qu'ils n'ont pas une ribambelle de grosses têtes d'affes. Il y a de l'émergence, il y a des trucs très très niches. Est-ce que c'est une des signatures ça de Nuit Sonore?
Ah oui, clairement, c'est vraiment une signature de Nuit Sonore. Déjà parce qu'on n'a pas les moyens d'aligner les cachets comme de gros festivals européens. Donc ça, là-dessus, on ne peut pas. Et ce qu'on veut faire avec les artistes, c'est vraiment les amener à une expérience aussi qui soit différente. C'est comme ça qu'on a fait la curation d'artistes aussi à l'époque. Je sais pas, c'était il y a quoi maintenant, peut-être 10 ans hein, qu'on a commencé ça. On était un peu les premiers dessus. Et l'idée, c'est vraiment de les amener à avoir une approche différente du live, du DJ set sur le festival et d'avoir une approche plus humaine en fait. Et c'est aussi pour ça aussi que je reviens sur les lieux, mais histoire aussi des friches, etc., ça fait aussi partie de l'ADN de Nuit Sonore. C'est-à-dire qu'en gros, on vend un festival qui est urbain, qui se déploie dans la ville et qui est quand même un peu différent que d'aller dans un hippodrome danser. Quoi.
C'est ça. Et alors, est-ce que les audiences et la notoriété en ligne de ces artistes en émergence ou déjà niche, est-ce que c'est un élément qui est pris en compte par les programmateurs? Parce que c'est la question du talk, hein. Est-ce que ce sont les algorithmes qui décident? Effectivement, est-ce que les audiences, est-ce que ça c'est pris en compte? Comment on détecte l'émergence, hormis évidemment en mettant un casque, en écoutant la musique, mais l'émergence, est-ce qu'elle n'est pas aussi, est-ce qu'il n'y a pas un compteur ou quelque chose en ligne à trouver sur les réseaux sociaux?
Bah si, carrément. Là, c'est ce qu'on pense d'ailleurs avec la scène rap à Nuit Sonore, qui est assez difficile à défendre parce que justement, on a des festivaliers qui sont pas du tout, enfin, qui sont moins habitués à ce genre de musique-là. Pourtant, c'est un genre de musique qui prend beaucoup de place aujourd'hui et qui est assez important de représenter aussi parce que bah il y a quand même toute une scène française et internationale qui prend place et qui existe. Et là, ce qu'on se pose comme question, c'est aussi profiter justement de l'influence de certains artistes pour pouvoir promouvoir ensuite leur date et la mettre en valeur.
Ouais. Et donc clairement, Julien, là-dessus, la notion d'audience, de communauté, parce qu'un artiste, il se bat pour être visible lui aussi, hein, travailler sa notoriété, travailler ses propres communautés, ça c'est quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui pour un festival de musique. Voyons voir, j'écoute et puis en même temps, je regarde aussi ce qui se passe en ligne.
Ah oui, complètement. Bah c'est aussi pour ça que du coup nous on fait beaucoup de liens sur les réseaux avec les artistes. On pourrait parler du cross-post justement de post, etc. entre nous, mais on le fait pas. On a essayé de le faire et justement on s'est rendu compte que ça marchait pas forcément en termes d'audience. En gros, ça multipliait pas les audiences. Donc maintenant ce qu'on fait nous, c'est qu'on prépare en amont en fait aux artistes qui vont dire sur Nuit Sonore. Donc ils ont des packages C'est tout, un peu tout près, en gros, et eux, après, ils diffusent à leur communauté.
Donc, vous faites à l'attention des artistes un pack média, en fait.
Ouais, c'est ça.
En
ouais.
disant, bah, tiens, pour, donc, les où il a les visuels de ses posts pour annoncer qu'il sera présent, etc., etc. Tout est charté, tout est fait par vous.
Ouais.
Et puis après, lui, il le poste avec les hats qui vont bien
Exactement,
et les hashtags ouais. qui vont bien. Le hashtag à suivre, d'ailleurs, pour Nuit Sonore cette année
il n'est pas, pas, pas encore ça fait. Ça doit être Nuisso 20 ans,
oui,
je pense.
Ouais. Je ne sais même pas. Ouais.
NS 20 ans ouais. Non, Nuisso.
NS 20 ans, peut-être. Je ne sais plus, j'avoue.
En général, c'est Nuisso et l'année.
Ouais.
Ok. Bon, bah là, il va falloir affiner ça.
C'est
maintenant, c'est money time. donc, tu disais, cross-post, ça ne marche pas très bien.
Non, alors, on a essayé ouais. Et on s'est rendu compte, en fait, sur Nuisso, en tout cas, que ça ne multipliait pas nos audiences, ça ne multipliait pas les likes. Du coup, c'est pour ça que ça a plus d'impact si l'artiste s'empare de la com de Nuisso et qu'il le fait de son côté.
Ouais.
Plutôt que si on le partage ensemble.
Et j'imagine, tout ça, eh ben, c'est pareil, c'est très organisé. Il y a des plannings de Gantt quelque part chez Artifarty où on voit les temps forts. Là, il faut actionner les artistes, là, il faut actionner les partenaires médias. Là, il y a des. C'est fascinant, quand même, je trouve, de piloter une marque qui est si bien entourée et de le mettre à profit de son événement. Est-ce que ça, c'est un des facteurs clés de succès d'un tout bon événementiel? C'est de s'appuyer sur les acteurs, ceux qui vont faire l'événement et puis les partenaires.
Ouais, carrément, parce qu'aujourd'hui, je pense que les gens, ils recherchent ça. En fait, ils recherchent de l'humanité. On est sur les réseaux, mais ce qu'on cherche sur les réseaux, c'est avant tout de voir des humains, d'être en contact, d'avoir des réseaux, des relations. Donc, s'appuyer sur les partenaires, les gens qui font le festival, les artistes, c'est hyper important. Et c'est ça aussi qui fait après... qui fait un peu boule de neige en fait sur le festival.
Moi j'ai une question aussi toujours sur la relation entre le festival, ses outils de communication et les artistes. Un artiste, est-ce que vous êtes déjà posé la question de vous poser en producteur de contenu pour le compte de l'artiste, en gros d'être prestataire de service. Je m'explique, un artiste, eh ben il c'est une marque à part entière aussi. Il a besoin de produire du contenu, il fait fréquemment appel à des freelances, à des petit studio indépendant pour produire du contenu pour lui. Et vous, il se trouve que ces ressources, vous les avez déjà sous la main. Vous avez le lieu, vous avez tout ce qu'il faut pour faire de la capta. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire d'inclure peut-être dans vos deals de cachet, de dire bah, tu repartiras avec du contenu ou voire même bah, si tu veux du contenu, j'ai un petit pack pour toi, ça coûte tant.
Là-dessus, je sais que c'est déjà arrivé que certains artistes demandent à faire des captations et à ajouter ça dans le festival pour se filmer. Après aussi, il y a tout ce qui est histoire de photographie. Pendant le festival, on a une grosse équipe de photographes qui passe dans tous les lieux et qui doit shooter chacun des artistes. Donc ça, pareil, à chaque fin de festival, on fait un gros tri de toutes nos photos par artiste qu'on leur envoie ensuite. Comme ça, eux-mêmes, ils peuvent s'en servir pour leur communication ou alors avoir des souvenirs du festival en fonction de ouais. leurs envies. Quoi.
Pouvoir en tant qu'organisateur d'événements garantir que l'exposition social media, garantir à un artiste que l'exposition social media elle sera de qualité, ça fait partie aussi des arguments qu'on peut avancer quand on souhaite à des invités spéciaux, etc. Leur dire ben, tu seras bien accueilli physiquement. En plus de ça, on va produire du beau contenu autour de toi.
Ouais, oui, ils font vachement attention à ça quand même les artistes aujourd'hui, donc ils regardent quand même vraiment aussi à la loupe les réseaux, la marque aussi au global, donc ça fait vraiment partie aussi du deal, ouais.
Puisqu'on parle de la marque, chaque année, eh bien, il y a un gros travail d'affiche, évidemment, etc. Je crois savoir, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Julien, que toi, t'as participé. Enfin, c'est ton métier, hein, initialement, d'ailleurs, même.
Ouais, moi, je suis graphiste, du coup, de formation. Et du coup, là, sur Artifarty et Nuit Sonore, je suis DA visuel, donc c'est moi qui choisis les graphistes des éditions.
Et ben, justement, j'aimerais bien que tu nous parles de l'affiche de cette année, qui a été faite avec, c'est de l'art génératif, hein, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse bien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle a été générée, cette affiche?
Alors en fait, c'est des photos de Nuit Sonore, donc des 20 ans, qui sont multipliées par un développeur qui nous avait ça. Il a multiplié et en multipliant, ça a créé des couches de couleurs. Et c'est ce qui a créé une espèce d'onde, de vague, qui est aujourd'hui la vague de l'affiche de cette année. Donc en fait, toute l'affiche qu'on voit, c'est des milliers et des milliers d'affiches compilées, de photos, pardon, compilées de Nuit Sonore.
Ouais, en ce moment, il y a un énorme, vous n'avez pas raté ce truc, un énorme sujet autour des IA génératives. Là, c'est un peu ça, hein, finalement. Il y a un truc qui a été codé avec une base. Il y a une intelligence artificielle qui a été codée, qui a utilisé des milliers de photos pour générer comme ça des formes un peu abstraites. Ce sujet de l'IA ramené à la musique, hein, ramené à la musique électronique ou à la musique contemporaine, c'est quelque chose que j'ai pas trouvé au programme. Est-ce que c'est parce que tout le monde s'est fait prendre un peu de cours, nous y compris, et est-ce que ça sera au programme des réflexions, peut-être même des spectacles ou des concerts auxquels on assistera en 2024?
Bah, c'est une question qu'on s'est posée. En fait, on a peur, parce que comme on fait la programmation quasi un an avant, on a peur d'être dépassé déjà. Donc,
Ouais, c'est chaud parce que tu vois, sur ce sujet IA, la prog, vous l'avez depuis longtemps. Il y a ce truc qui arrive, vous dites merde, putain, les talks, on aurait dû faire un truc là-dessus.
Ouais, on en a parlé.
Peut-être qu'on aurait
parlé,
pu prendre un artiste musical qui intègre l'IA dans sa prod, etc.
Bah, c'est une question qu'on a et qu'on n'a pas vraiment tranché. Mais on se pose vraiment la question de dire, est-ce que finalement, nous, en programmant 6 mois avant, même un an avant, est-ce qu'on peut, enfin, ça va tellement vite, en fait, que peut-être qu'on va être complètement dépassé. Donc, il faudrait peut-être faire un truc, un one shot comme ça, à ça réfléchir.
Est-ce que aujourd'hui, bah juste, du coup, je te pose la question, est-ce que sur la musique électronique, la musique contemporaine, j'imagine, il y a beaucoup de choses qui sont essayées en ce moment avec de l'IA. Est-ce que parmi les artistes qui viennent, il y en a qui expérimentent de ce côté-là? Est-ce que tu sais, est-ce que tu en sais plus que moi?
Peut-être Clémence, peut-être plus que moi.
Bah là-dessus, j'avoue que je suis pas très renseignée non plus. J'ai pas de référence comme ça, mais j'imagine que oui. Après, je sais qu'il y a beaucoup de... Souvent, on montre beaucoup de lives audiovisuels, donc qui sont diffusés tout autour ou derrière l'artiste. Et je crois qu'avoir vu, mais j'ai encore pas les noms, mais beaucoup d'artistes qui créent leurs visuels justement avec des IA, ouais. et qui créent ce contenu-là comme ça.
Donc, elle est intégrée dans le vidging, hein, donc tout le travail de vidéo ça, autour de l'artiste, du travail issu d'IA. Ça, c'est fascinant. Je pense qu'on aura... J'aimerais bien qu'à l'occasion, on se reparle de ce sujet spécifiquement. Comme ça, on se laisse tous un peu le temps de digérer, de sédimenter cette avalanche des IA. Mais je trouve que ramener à la musique, là aussi, on est aux prémices et qu'il va sans doute se passer beaucoup de choses. J'ai lu aussi quelque part que Nuit Sonore embauchait chaque année à peu près 600 bénévoles. C'est vraiment ça, c'est le chiffre est juste, 600 bénévoles.
Cette année, ouais, je crois que c'était 600 ou 700 bénévoles qui ont été sollicités pour le festival.
Comment est-ce que vous les recrutez, ces bénévoles, 600, 700 personnes?
Eh ben, déjà, on a Artifartis, une association. Du coup, on a toute une base de données. Enfin, on a des adhérents, surtout, qui sont là pour participer à la vie de l'association et qu'on informe sur les différents projets. Donc, c'est les premières personnes qui sont sollicitées pour participer en tant que bénévole à l'édition de Nuit Sonore. Et ensuite, c'est plein de leviers qu'on lève sur les réseaux sociaux. Donc, on parle au nom de Nuit Sonore sur Facebook, sur Instagram, plusieurs stories, des posts, des newsletters pour donner l'envie ou donner cette possibilité-là aux festivaliers qui nous suivent de vivre le festival de l'intérieur.
Et vous recrutez facilement? C'est facile d'aller chercher 700 personnes comme ça pour donner un coup de main?
Bah, ça dépend des années. Après Covid, ça a été très compliqué. Là, ça va un peu mieux, mais l'an passé, on a vraiment, vraiment galéré.
Ouais, 700 personnes, hein, je veux dire, c'est pas rien, hein. Trouver quelques potes pour déménager, ça on sait faire, mais 700 personnes, c'est énorme. Est-ce que dans la relation après, dans l'orga au quotidien, comment est-ce que vous pilotez ces 700 bénévoles? Est-ce que vous avez des canaux digitaux? Est-ce que vous avez des groupes WhatsApp, des choses comme ça qui sont mis en place à l'échelle de l'événement, vraiment en mode orga?
Tout ce qui est organisation des bénévoles, déjà on fait appel à une société extérieure qui gère tout ça. Donc, qui les appelle, organise avec eux leur temps de travail, leur temps de rencontre.
Okay.
On a fait aussi des moments de rencontre dans nos lieux avant le festival pour qu'ils puissent s'adresser aux bonnes personnes d'Artifarty, de Nuit Sonore et même rencontrer leurs référents lors de l'événement. Et après, on a commencé à faire une chaîne Telegram aussi pour que ce soit un peu plus personnel et un peu plus direct vers eux. Pour leur donner les informations du festival et de l'association.
Ouais, alors justement, cette chaîne Telegram, moi je suis tombé, je pense que c'est la chaîne publique, hein, pas la chaîne des bénévoles, hein, je suis allé dessus, hein, voilà, j'ai vu que vous aviez ce compte Telegram Nuit Sonore, vous y balancez pas mal d'infos sur les différents events au cœur, donc tous les petits événements qui vont se greffer au cœur du festival. C'est quoi l'objectif de ce Telegram pour le grand public, pour monsieur, madame, tout le monde? Et pourquoi Telegram et pas WhatsApp? Pourquoi Telegram surtout?
En fait, Telegram, on l'a lancé en 2021, de mémoire. En fait, nous, ce qu'on voudrait vraiment, c'est sortir des GAFAM à terme. Donc ça, c'est un objectif qu'on a chez Arty Party.
Ok, donc c'est une décision qui est motivée par, par la déontologie. Hein. Telegram ouais. plutôt que WhatsApp.
Ouais, complètement. Okay. Et puis WhatsApp, nous, on l'utilise aussi beaucoup en perso, donc on voulait changer aussi. On voulait tester Telegram. Ouais. En fait, l'idée, c'était quand on l'a lancé, c'était de se dire, bon, là, il y a un canal qui s'ouvre, ça a l'air pas mal, c'est le moment de le faire, d'essayer. Et puis, on verra bien ce que ça va donner.
Justement, ce pendant comme ça d'expérimentation d'outils, TikTok, je suis allé voir, je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils ont fait des choses, je ne vous ai pas trouvé, peut-être que je n'ai pas assez bien cherché.
Non, c'est normal.
Ok, il y a une raison à ça ?
Oui, il y a une raison qui est vraiment politique et géopolitique, c'est-à-dire qu'en gros, on s'est posé vraiment la question de TikTok, hein, ça fait sur toutes nos marques. On ne veut pas pour l'instant aller sur TikTok par rapport au problème de démocratie chinoise. Et on défend vraiment quand même, nous, avant tout, un esprit européen, un esprit de démocratie, etc. Et le fait que les données appartiennent plus ou moins à l'État chinois, ça nous dérange. Donc clairement, on a dit on n'ira pas sur TikTok.
Comment elles sont prises, ces décisions comme ça déontologiques ? Alors, on a rappelé, Arty Farty, c'est une association, c'est une grosse association. Hein. Vous êtes combien chez Arty Farty ?
Alors en salarié on est 120.
120 salariés.
Tous les bénévoles. Ouais.
Ah, y a pas beaucoup d'associations avec 120 salariés, donc c'est pas rien. Comment elles sont prises ces décisions comme ça très déontologiques ? Est-ce qu'elles sont inscrites dans votre roadmap Arty Farty ? Elles disent là-dessus on s'est engagé, donc la décision elle est évidente. Ou est-ce que vous qui pilotez la com, Julien, toi qui es au cœur de la com de Nuit Sonore, tu dois peser le pour et le contre, défendre ton point de vue face au reste de l'association en disant si en fait peut-être que Twitter ça peut valoir encore le coup.
Ça passe d'abord par la com, on a un débat en interne.
D'accord.
Enfin bon, pas qu'avec la com, avec aussi des gens qui utilisent les réseaux beaucoup de gens utilisent les réseaux dans notre structure. Donc on a un débat avec celles et ceux qui veulent. Là on a eu le débat récemment sur Twitter, donc on a eu une après-midi là-dessus sur Twitter. Et après nous on soumet en fait nos conclusions à la direction.
D'accord.
Et après, c'est la direction qui tranche.
D'accord. Donc Twitter, vous avez tranché ?
Twitter, on n'a pas tranché. C'est encore en débat. Nous, on a envie très clairement de quitter Twitter. Ouais. On le dit publiquement. Mais pour l'instant, sur Instagram, on l'a juste mis en pause.
Donc aujourd'hui, votre safe space, à vous, c'est Instagram. Hein. Ça reste l'endroit où vous avez trouvé un espace libre, où vous vous sentez à l'aise. Est-ce que demain, du coup, vous êtes en vigilance dès qu'il y a une nouvelle plateforme, de dire, on va l'essayer, justement, c'est une plateforme indépendante, et différente, etc. On va tester des choses dessus.
Ouais, alors on va peut-être pas le tester avec Nuit Sonore. En fait, on le testera peut-être avec d'autres marques, parce que du coup, chez Arty Farty, on a 12 marques.
Ouais.
Donc, on a aussi des lieux, on a le club de sucre, etc. Donc, des fois, on se sert des marques un peu plus petites pour tester.
Un peu plus discrètes aussi, moins flagrantes quand elles font un test. Hein,
même si elles le font différemment aussi, parce qu'elles sont pas forcément les mêmes communautés, mais ça nous permet des tests. Évidemment, sur Twitter, on réfléchit à Matonovonte, donc on teste avec une autre marque en ce moment. Sur les Reels, on pense à Short. Donc là, on va le tester avec une autre marque aussi, un peu en sous-marin. Et puis, suivant les retours qu'on a, peut-être qu'on ira avec Nuit Sonore.
Ok. C'est beau. C'est chouette d'avoir aussi cet éventail de marques à disposition. Aujourd'hui, on enregistre le jeudi 11 mai. On va diffuser cet épisode juste avant le lancement des Nuits Sonores. La veille, on va dire. On m'a posé la question, on m'a demandé, on m'a forcé même en interne à dire demande-leur c'est quoi des pistes sur la dernière soirée. Qu'est-ce qui va se passer à la dernière soirée ? Pareil qu'il y a encore des surprises à venir. Est-ce qu'on a un indice ? Est-ce qu'on a un scoop à tomber ou pas du tout ?
Bah, ça va être une belle soirée déjà.
Okay.
Et après, ça va être un mélange, on va dire, entre l'international, le local, et ça va être assez divers. Je pense que c'est pas à louper non plus, quoi.
Ok, voilà. Bon, on n'en saura pas plus, il faudra y aller. Écoutez, nous, on vous souhaite évidemment une superbe 20e édition des Nuits Sonores. Évidemment, on va suivre ça de près. Je sais qu'une grande partie de l'équipe de Supernatif y sera, donc peut-être vous croiserons. Sans doute pas, parce que vous serez trop la tête dans le guidon. Je sais que là, vous êtes en money time, donc merci du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui à échanger. J'aimerais bien qu'en septembre, on puisse reparler d'IA. Voilà, je vous le pose comme ça. Si en septembre, on retrouve un moment, peut-être parmi les experts maison autour d'Arty Farty pour parler d'IA générative, de musique, etc. Moi, ça me passionnerait qu'on prenne un moment pour ça. Merci à vous tous. C'est quoi le KPI final là pour Nuit Sonore à la fin d'un event comme ça, 20e ? Qu'est-ce qu'on regarde où on se dit, on a bien fait notre boulot ?
Bah, en fait, on n'a pas vraiment de KPI. On voudrait 50 000 là qu'on va avoir, je pense, la semaine prochaine sur Instagram. C'est déjà pas mal. Et après, non, nous vraiment, c'est que ça se passe bien. Enfin, en termes humains, c'est-à-dire que vraiment que le festival se passe bien, que l'ambiance soit là. C'est une célébration de 20 ans, donc il y a aussi une sacrée histoire là à raconter. Donc, si tout se passe bien, on aura déjà réussi un sacré pari.
Eh ben, tout va bien se passer. En tout cas, un grand merci à vous. Merci Julien, merci Clémence, merci pour votre temps. C'était le Super Délit. Vous écoutez ce podcast dans une application de podcast. N'hésitez pas à le partager avec une pote, avec un pote. Pour ceux et celles d'entre vous qui seraient aux nuits sonores, ben, soyez sages, soyez prudents, faites attention à vous, marrez-vous bien. Et puis, les amis, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao, bye.